Jérôme Vaillant est professeur de civilisation allemande contemporaine à l'université Charles de Gaulle Lille 3 et directeur de la revue Allemagne d'aujourd'hui. Il est aussi l'auteur de L'Allemagne unifiée 20 ans après la chute du mur chez Septentrion et il vient de publier sur le site du DiploWeb un article en forme d'état des lieux de l'Allemagne à l'occasion du 20e anniversaire de la réunification le 3 octobre 1990. Alors Jérôme Vaillant, dans quel état d'esprit étiez-vous il y a 20 ans, le 2 octobre 1990, à la veille de la signature de la réunification de l'Allemagne? Je ne suis pas sûr que ce soit un samedi.
La date qui a été choisie du 3 octobre a été délibérément choisie par le chancelier Kohl pour que ce soit avant le 41e anniversaire de la RDA, puisque ça aurait été le cas le 7 octobre suivant. Et puis pour... que ce ne soit pas le 9 novembre, parce que cette date, qui aurait été pourtant une grande date dans l'histoire allemande, ne pouvait pas être choisie comme date mémoire en raison de l'ambiguïté de la date, puisque ce n'était pas seulement la date de la chute du mur, mais c'est également la date des pogroms de 1938, et que pour véritablement avoir une fête nationale, il fallait avoir quelque chose à fêter, qui soit une expression, je dirais, de jubilation nationale ou intérieure. Mais en tout cas, les pogroms de 38 laissaient un arrière-goût qu'on ne pouvait pas, en tout cas, ignorer. Je dirais que je crois que le 3 octobre 90 en Allemagne a été une grande fête, si l'on veut, surtout à Berlin, mais que ça n'a pas eu, évidemment, le caractère populaire, spontané, dû à cette magnifique surprise qu'a représenté la chute et l'ouverture du mur dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989. En ce sens, il n'y a pas, je pense, de commune mesure. Le 3 octobre est une date un peu artificielle. C'est parce que à cette date-là, il a été décidé qu'entrait en vigueur l'unification par l'adhésion de la RDA à la RFA. Et de ce fait, je dirais... Les manifestations de joie populaire ont été relativement tempérées, ce qui d'ailleurs est en même temps l'occasion de faire remarquer qu'il n'y avait pas de nationalisme qui se soit exprimé à l'époque dans les rues de Berlin et de l'Allemagne, contrairement à ce que certains avaient pu croire, avec cette idée parfois un peu simpliste qu'il suffisait que l'Allemagne refasse son unité pour qu'elle redevienne dangereuse. Je pense que 20 ans après, on est au-delà de cette représentation des choses et peut-être que il faut rappeler au moment où nous pensons au 20e anniversaire de l'unification, au 20e anniversaire de la chute du mur il y a un an, où là, la France a voulu participer à la joie également des Allemands 20 ans après pour bien montrer que la chute du mur avait été aussi pour les Français un de ces grands événements dans l'histoire européenne qui avait permis certes à l'Allemagne de refaire son unité mais aussi à l'Europe de se retrouver unifiée et sans doute en même temps confrontée au problème de l'élargissement de l'Europe à l'Est et à des rapports de force nouveaux. Je pense que tous les événements de l'année passée à propos de la chute du mur, l'intensité, le nombre et puis je dirais aussi la qualité des émissions aussi bien à la radio qu'à la télévision ou des livres qui ont été proposés est la preuve que la France a aussi surmonté une vision un peu simpliste d'une Allemagne unifiée qui en devenant plus grande devenait peut-être pour elle trop dangereuse, même s'il est vrai que l'Allemagne reste toujours pour la France une sorte de grande question ouverte parce qu'on se voit constamment en concurrence et en rivalité avec elle.
Alors c'est l'Allemagne de l'Est qui a payé les erreurs d'Hitler au prix fort, parce qu'on pourrait dire qu'ils ont perdu deux fois la guerre.
Je verrais les choses autrement. Je dirais que avec la chute du mur et surtout la révolution pacifique de l'automne de 89 qui a conduit à la chute du mur, les Allemands de l'Est ont d'abord apporté la preuve qu'ils étaient devenus des sujets de l'histoire. Et que c'était bien leur révolution à eux qui avait permis l'unification de l'Allemagne. Alors peut-être qu'évidemment, beaucoup ont pu penser après que cette révolution pacifique de l'automne 89, faite pour obtenir une transformation démocratique et socialiste de la RDA, a été confisquée par l'unification dans la mesure où finalement la RDA a disparu au profit, je dirais, d'une Allemagne élargie qui continuait d'être l'ancienne République fédérale d'Allemagne, avec son économie de marché, avec son système de démocratie parlementaire. Donc je pense pas qu'on puisse dire qu'ils ont doublement perdu. Ils ont gagné en tant que sujet de l'histoire, ils ont un peu perdu après parce qu'ils sont devenus objet de l'unification, mais je pense qu'au total, ils ont été aussi, quelque part 20 ans après, des gagnants de l'unification, étant entendu que là, il faudrait certainement nuancer beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils ont perdu?
Alors moi, en fait, mon idée, quand je disais ils ont perdu deux fois la guerre, c'est qu'ils ont perdu une première fois en 1945, mais ils ont perdu une seconde fois quand ils sont devenus communistes. C'était ça, mon idée.
D'accord, oui, alors ça, c'est voilà. Effectivement...
Et là, du coup, le prix a été quand même très lourd à payer, et parce que ça fait quand même une guerre, enfin, ça fait deux guerres dans le siècle, plus le communisme pendant un bon bout de temps, c'est quand même lourd pour le même peuple.
C'est vrai que les Allemands de l'Est ont payé un double prix, celui effectivement du Troisième Reich et de la défaite qui a suivi. Et après, je dirais, de 40 ans de communisme, sauf que, là je serais tenté de nuancer pour ce qui est de la période de 45 à 49, où il y a encore à l'époque en Allemagne, de l'Ouest comme de l'Est, une sorte d'espoir en un monde meilleur. Et la RDA, ne l'oublions pas, même en France... Pendant les années 50 et 60, la RDA passe pour être auprès de nombreux Français, des intellectuels de gauche en particulier, la meilleure des deux Allemagnes. La RFA est plutôt, je dirais, vouée aux gémonies. Et on s'est rendu compte avec le temps que les choses n'étaient pas aussi simples, que l'antifascisme est-allemand de bon aloi chez nous en France était devenu finalement un antifascisme purement artificiel parce que dicté d'en haut et pas assimilé par les citoyens est-allemands, alors que parallèlement, la RFA, dont on disait qu'elle ne savait pas affronter le passé, eh bien finalement, se donnait beaucoup plus les moyens, à titre individuel et à titre collectif, de regarder le passé allemand en face, et puis de le surmonter sans jamais l'oublier. Et de ce fait, je pense qu'il y a aujourd'hui en Allemagne de l'Ouest un antifascisme naturel, parce que les Allemands de l'Ouest se le sont appropriés et que les Allemands de l'Est ont encore à l'apprendre en dépassant l'antifascisme formel et officiel de la RDA passée.
Oui, et après, l'association des deux fera la vraie unité de l'Allemagne. Parce qu'elle n'est pas réelle complètement, cette unité.
Alors, c'est vrai que si on pose la question, 20 ans après, où en est-on de l'unification de l'Allemagne, je crois qu'il faut distinguer différents niveaux. Au niveau étatique, elle s'est faite relativement vite. Au niveau politico-administratif, la transition a été en gros de 4 à 5 ans. Sur le plan économique et social, et là je me référerai volontiers aux travaux de mon collègue Günther Heidemann, qui est actuellement directeur du Hannah Arendt Institut à Dresde, et qui intervient d'ailleurs demain soir à l'Institut Goethe à 18h, mardi soir à 18h à l'Institut Goethe, sur le thème de la révolution après la révolution. À ses yeux, au fond, le plus difficile qu'il y ait eu à faire, aussi bien pour l'Allemagne dans son ensemble que pour les Allemands de l'Est, ça a été cette adaptation à l'économie sociale de marché telle qu'on la pratiquait en Allemagne de l'Ouest. Et passer de l'économie planifiée à l'économie de marché, cela a été difficile, sur le plan, je dirais, mental, comme sur le plan d'une adaptation des structures qui, en gros, étaient dépassées dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Et puis, l'adaptation, je dirais, à un système politique, économique nouveau, culturel également, a confronté les Allemands de l'Est à une révolution intérieure. Je pense un petit peu à ce qui a été dit précédemment, c'est toujours un peu cette question, il y a que peut-on modifier dans les choses et les structures et que peut-on modifier par soi-même. C'est cette évolution, je dirais, intérieure qui est certainement la plus difficile. L'unification intérieure n'est certainement pas encore réalisée. Mais je me référerais volontiers ici à Matthias Platzeck, ministre-président social-démocrate du Brandebourg, qui dans un entretien récent au Spiegel disait « les deux tiers du chemin ont été faits ». Ce qui veut dire qu'il y a un tiers encore du chemin à faire. Deux tiers, un tiers, ou trois quarts, un quart, c'est à peu près la même chose. Il est certain que ces chiffres sont aussi représentatifs d'autres éléments, à savoir que la productivité du travail en Allemagne de l'Est est en gros entre 75 et 80% de la productivité en Allemagne de l'Ouest, même 20 ans après, que les revenus sont également à peu près à 80% du niveau de l'Allemagne de l'Ouest. Donc on se retrouve 20 ans après toujours avec ce différentiel, même si globalement les choses ont quand même évolué de façon favorable pour les Allemands de l'Est. Alors je sais qu'il y a toujours la question à laquelle il faut répondre, c'est celle du chômage. Le chômage est toujours à peu près deux fois plus élevé en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest, mais il est pour la première fois depuis 20 ans à son niveau le plus bas dans les nouveaux Länder de l'Est, c'est-à-dire que le chômage est à 12% quand il est à 6% à l'Ouest, avec à vrai dire une population nettement réduite par rapport à il y a 20 ans. Et si on prend les taux de chômage d'un Land de l'Est à l'autre, bon, ça peut varier entre 9 et puis 15%, mais on est loin malgré tout des 20% et plus de chômage qu'il y a eu dans les années 90 et au début des années 2000.
Donc on est finalement loin des fameux paysages florissants que promettait Helmut Kohl. Alors Ulrich Blum, président de l'Institut économique de Halle, nous dit qu'il faudra 40 ans pour que l'Est atteigne le même niveau de développement que l'Ouest. 40 ans, ça fait long.
Lorsque l'unification a eu lieu, je pense que beaucoup ont dit que l'unification intérieure, c'était l'affaire de au moins 30 ans. Les plus optimistes sur le plan économique et social ont pensé que ça irait beaucoup plus vite. Aujourd'hui, certains ont le sentiment que l'essentiel a été fait. 40 ans, c'est sans doute réaliste, et je pense que l'unification intérieure de l'Allemagne sera encore peut-être plus longue au total, avec peut-être cette réserve que j'ai l'habitude de faire en plus, c'est que il ne faut pas rêver d'une sorte d'unité intérieure allemande parfaite selon le modèle français de l'État national accompli, dans la mesure où l'Allemagne, même quand elle s'est réalisée comme État national, l'a toujours fait sous la forme fédérale, et que les différences entre un Saxon et un Bavarois, ou entre un Brandebourgeois et un Rhénan, continueront d'exister, peut-être plus qu'en France, entre un Breton et... Bon, peut-être que la comparaison elle est un peu osée. Il y a un Auvergnat, j'allais dire un Breton et un Corse auraient été peut-être un peu allé loin là. Mais il y a aussi des différences en France, mais elles sont quand même gommées par cette idée d'une république une et indivisible, alors que pour l'Allemagne, la devise c'est la diversité dans l'unité, ce qui n'est pas la même chose.
Alors le coût de cette réunification est tout à fait exorbitant, vous avez quelques chiffres?
Alors... c'est un coût qu'il est difficile d'évaluer, mais Günther Heidemann, au terme des calculs qu'il a fait et repris à d'autres, estime que le coût de l'unification depuis maintenant 20 ans peut se fixer à 1,7 billion d'euros, une somme faramineuse qui ne nous dit plus rien à l'esprit tellement elle est élevée. Ce qui est peut-être plus significatif, c'est le montant des transferts sociaux qui continuent de se faire d'ouest en est, bon an mal an. Par transferts sociaux, il faut penser tout simplement aux paiements qui sont faits pour les caisses d'assurance sociale, d'assurance maladie, les pensions et les retraites. Eh bien, ces transferts sociaux d'ouest en est sont actuellement encore de 30 milliards d'euros par an. Sans compter les effets de la péréquation entre les Länder de l'Ouest et les Länder de l'Est, ceux-ci étant les principaux bénéficiaires d'une péréquation qui se monte également à plusieurs milliards d'euros. Donc on peut dire effectivement que la mise à niveau de l'ex-RDA, de l'ancienne RDA, a été beaucoup plus coûteuse qu'on l'aurait jamais pu penser. Parce que on avait au fond surévalué, même à l'Ouest, les capacités existantes à l'Est, capacités qui n'avaient de sens que dans le contexte, je dirais, d'un monde communiste vivant, continuant de vivre replié sur lui-même, avec son propre marché, et non pas son ouverture sur le monde extérieur.
Alors l'Allemagne est le leader économique européen, mais est-ce qu'elle est toujours aussi européenne que du temps de Kohl et Mitterrand, c'est-à-dire il y a 20 ans?
Alors, je pense qu'on constate globalement en Europe, mais pas seulement en Allemagne, aussi bien en France que peut-être aussi en Italie, en Espagne, et de toute façon en Grande-Bretagne, Mais là, ça n'est pas un scoop que je livre en disant que la Grande-Bretagne n'a peut-être jamais été véritablement européenne. On observe effectivement une sorte de renationalisation au sein de l'Europe. Je crois que cette impression que l'Allemagne serait, alors non pas anti-européenne, mais devenue moins européenne, je dirais anti-européen, on a des accents anti-européens plutôt de type populiste en France aujourd'hui. L'Allemagne donne l'impression d'être devenue moins européenne, sans doute avec de bonnes raisons, mais aussi suite à des maladresses qui, à mon sens, n'hypothèquent pas globalement l'engagement européen de l'Allemagne. Je pense que sur la politique de crise financière, pour réagir à la crise financière, l'Allemagne a mis trop de temps à comprendre et à s'adapter aux attentes et aux demandes de ses voisins. Elle a mis trop de temps pour s'engager sur la voie de programmes de relance conjoncturelle parce que c'était contraire à son idéologie, je dirais, libérale, ambiante. Elle a mis aussi trop de temps, et pour des raisons circonstancielles, je dirais, de mauvais aloi, pour s'adapter à la crise de l'euro sur fond de crise grecque. Et elle a donné effectivement le sentiment à cette occasion que le résultat d'élections régionales en Rhénanie-du-Nord-Westphalie importait plus à l'Allemagne que, enfin, à son gouvernement de l'époque, que l'avenir de l'Europe. Mais je fais remarquer quand même, c'est que celui qui voulait l'entendre pouvait aussi entendre la chancelière Merkel dire à chaque fois qu'elle semblait reculer, mais qu'elle reculait pour mieux sauter, que le moment venu, l'Allemagne, bien évidemment, prendrait sa part d'engagement nécessaire pour sauver l'euro. Alors, je pense que là, on arrive peut-être à un constat qu'il est nécessaire de faire pour mieux comprendre l'Allemagne et ses réactions dans le cadre de cette double crise européenne. C'est que, à l'inverse de la France plus pragmatique, ou à l'inverse, par exemple, des États-Unis qui réagissent aussi de façon pragmatique aux crises, l'Allemagne, sur la base du libéralisme économique et d'une certaine doctrine de l'économie sociale de marché, a réagi de façon doctrinaire pour sauver les grands principes dont elle estimait qu'ils devaient survivre aux crises. Bon, le fait que la Banque Centrale Européenne soit amenée à acheter des certificats défectueux, ce qui lui est interdit de par ses propres statuts, n'a pas gêné du tout du côté français. Ça gêne beaucoup du côté allemand, parce qu'on continue d'avoir aussi l'idée nécessaire aux yeux des Allemands d'une Banque Centrale Européenne indépendante du pouvoir politique. Et on sait bien que depuis toujours, la France est au contraire défend l'idée que la Banque Centrale Européenne doit être au service des gouvernements et non pas au service simplement de la stabilité monétaire.
Donc là déjà, ils ne sont pas d'accord. Est-ce que ce fameux couple franco-allemand qui a fait les beaux jours de l'Europe il y a quelque temps, il est toujours d'actualité ou il n'existe plus vraiment ?
Alors je pense qu'il a beaucoup évolué. Je pense que lorsqu'on a parlé aussi de couple franco-allemand en les iconisant sous la forme de Schmidt-Giscard d'Estaing, Kohl-Mitterrand, ensuite Schröder-Chirac. Si on y regarde de près, ils n'ont jamais été ces couples idéaux que l'on a bien voulu dire. Le couple Sarkozy-Merkel, c'est vrai qu'on a du mal à dire qu'ils forment un couple. Il est certain que la chancelière Merkel a beaucoup de mal à s'adapter au personnage agité, fébrile, activiste que représente le président français. Qu'elle a aussi le sentiment que la France tire toujours à soi la couverture et ne fait pas preuve de solidarité politique. Mais je pense que d'un côté comme de l'autre, on a une profonde conscience que les deux États ne peuvent plus s'affirmer dans le monde, sur le plan politique peut-être plus que sur le plan économique, pour ce qui est de l'Allemagne, seul. Et qu'il faut donc l'Europe comme moyen, je dirais, d'affirmation de soi dans le monde. Si je faisais la remarque un petit peu à part pour ce qui est de l'économie, c'est que les grands concerns allemands et les petites et moyennes entreprises allemandes, qui sont presque pour nous Français souvent déjà de grandes entreprises, ce sont depuis longtemps des global players, c'est-à-dire qui sont depuis longtemps adaptés à un marché globalisé. Et c'est peut-être cette différence fondamentale qui subsiste entre les stratégies économiques françaises et allemandes. La France voit l'Europe comme un bastion, n'a que quelques grands caciques sur le plan mondial, l'Allemagne en a davantage et a toujours considéré qu'il fallait un commerce sans entrave pour permettre aux exportations allemandes de fonctionner.
Ah oui, ça tombe bien, vu qu'elle est leader européenne de l'exportation. Comment vous voyez les 20 prochaines années en Allemagne?
Alors, je les vois sans vouloir les voir, parce que je n'aime pas trop la politique fiction, finalement. Je pense que l'on aura peut-être un sursaut, mais ça ne dépend pas seulement de l'Allemagne, en faveur de l'Europe, une fois les crises surmontées, une fois aussi les déficits budgétaires égalisés. Je pense que l'Europe a encore de beaux jours devant elle et que l'Europe ne peut pas progresser si la France et l'Allemagne ne s'y mettent pas. Alors, en répondant ainsi à votre question, j'émets plus un vœu qu'une certitude. Il est certain que les conditions de la vie politique en Europe ont profondément changé, au plus tard depuis 2004, avec l'élargissement de l'Europe à l'Est, qui permet une multiplication des alliances et de ce fait relativise le partenariat franco-allemand. Mais je pense que on continue de penser à Paris comme à Berlin, que sans un accord franco-allemand, il n'y a pas d'Europe possible, et que les relations franco-allemandes, sans être exclusives, ce qui est au fond un non-sens quand on l'a dit dans le passé, restent des relations privilégiées.